Place Info.
Emmanuel Macron et Édouard Philippe tentent donc de resserrer les rangs de la majorité. On le voyait à la veille de la présentation des détails de la réforme. Une dernière réunion de calage a lieu ce soir à l'Élysée. Alors que la mobilisation se poursuit, les perturbations dans les transports également, la SNCF, la RATP ne prévoient pas beaucoup d'améliorations pour demain. Et tout cela, cette situation, en rappelle d'autres par le passé. Bonsoir Thomas Snegaroff.
Bonsoir Céline.
Et on va voir avec vous que certains, parfois, ont tenté de casser la grève avec des méthodes plus ou moins contestables. Et les patrons, d'abord, ont eu une idée... Vous allez nous le rappeler, assez imparable.
Ouais, la grève, c'est 1864 en France. Les syndicats, c'est 20 ans plus tard. Bah, très vite, les patrons vont chercher à casser la grève. C'est le terme qu'on emploie à l'époque. Et c'est au Creusot, chez Schneider, vous savez, hein, qui fonde la sidérurgie, qu'en 1899, le patron Schneider a une idée géniale. C'est de créer un syndicat. Mais pas un syndicat d'ouvriers grévistes, mais un syndicat d'ouvriers travailleurs. Et on raconte, alors est-ce que c'est la vraie version ou pas, je ne suis pas certain, mais en tout cas c'est ce qu'on raconte, que c'est parce que les murs du syndicat sont jaunes qu'on a appelé à ce moment-là les jaunes, à savoir les salariés qui travaillent pour casser la grève. Mais ce qui est important dans ce qu'on appelle le syndicalisme jaune, c'est qu'il est piloté par le patron. C'est ça qu'on a appelé jaune jusqu'à aujourd'hui. Hein. Certains syndicalistes aujourd'hui considèrent encore que leurs collègues qui continuent à travailler, ce sont des jaunes vendus au patronat.
Et ben voilà pour l'origine de cette expression. Alors on a parlé du patronat, mais l'État a aussi eu une idée plutôt radicale, celle-ci.
Oui, parce que ceux qui veulent travailler en sont parfois empêchés, et parfois les grévistes occupent des lieux de production. Donc en 1948, l'État prend une décision, vous allez le voir, plutôt radical. On est en pleine période de bataille dite de la production. Il faut produire pour relancer l'économie française après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on y met les moyens.
En France, à la suite des mesures prises par le gouvernement pour sauvegarder la liberté du travail, la grève des mines semble entrer dans sa phase finale. Dans les puits protégés par la troupe, la reprise du travail s'amorce. Cependant, un nouveau problème se pose. Les dockers des principaux ports français ont à leur tour cessé le travail. Et le gouvernement a dû faire assurer par la troupe les déchargements de charbon les plus urgents. Derniers échos d'un des plus graves mouvements sociaux auxquels la France ait eu à faire face depuis sa libération.
Recours à la troupe, hein.
Ouais, recours à la troupe, absolument, pour déloger les mineurs qui empêchent les mines de travailler, et puis pour amener effectivement des salariés, des jaunes, hein, dont on parlait il y a un instant, dont l'armée aussi, pour remplacer, alors là c'est beaucoup plus actuel, pour remplacer les trains qui ne roulent pas. En 1951, le gouvernement décide de faire transporter les usagers qui n'ont plus de train dans des camions militaires. Alors ça peut sembler très loin, 1951, mais sachez, c'est un peu moins loin qu'en 1988, Michel Rocard prend la même décision et les gens vont être 1 million de banlieusards bloqués qui vont se balader dans des navettes en camions militaires bâchés dans Paris. Ce sont des images assez étonnantes, mais très vite ça va pas marcher parce que la grève va s'étendre à d'autres secteurs, à la RATP, au bus, etc. au métro, et du coup, bah, il n'y a plus assez de camions, mais surtout, l'image est terrible, hein. L'image de l'État qui casse la grève avec l'armée, c'est une image du passé. J'évoquais 1951, après 1988, je crois qu'aujourd'hui, personne n'évoque cette possibilité pour casser la grève d'aujourd'hui.
Et puis, face à ces perturbations dans les transports, plus près de nous, il y a évidemment le service minimum.
Oui, alors ça, c'est un vieux rêve, hein, pour beaucoup de pourfendeurs des grèves, perçus comme, évidemment, des blocages. Alors, ça a progressivement fait son chemin, dès les débuts des années 80, on commence à en parler, et puis, c'est une grande loi en 2007 hein, qui va faire du service minimum, apparemment, croit-on à l'époque, la martingale pour lutter contre les grèves. En tout cas, c'est ce qu'espère le président Nicolas Sarkozy, qu'on va écouter ici en 2008. L'archive est assez connue. Lors du comité national de l'UMP, regardez, c'est un Nicolas Sarkozy très, très heureux du service minimum.
La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Alors, en 2008, on rigole quand on entend Nicolas Sarkozy dire cela parce qu'on est satisfait, c'est au sein du UMP. Aujourd'hui, on rigole parce que quand on voit l'état des routes et l'état des villes, on peut effectivement se dire qu'on s'en rend compte un petit peu quand il y a des grèves. Et puis, allez, pour l'anecdote, pour terminer, en 1986, il y a eu des grèves très importantes à la fin de l'année pour le gouvernement, qui est un gouvernement Chirac. On est en pleine cohabitation. Il n'est pas question que ce pouvoir soit freiné par une grève, alors que se profile la présidentielle pour Chirac, qui doit être un premier ministre fort et qui réforme la France. Or, il a face à lui une énorme manifestation et des grèves importantes dans les transports en commun. Eh bien, lui, va décider d'organiser des manifestations d'usagers, organisées par l'UDF et le RPR. Et à la fin de l'année 1986, vous avez des gens qui manifestent contre la grève, mais organisées, cette manifestation, par le pouvoir en place. C'est des choses, je crois qu'aujourd'hui, on s'en rendrait bien compte et ça passerait assez mal, même si à l'époque, déjà, c'était pas très bien passé.
Merci beaucoup, Thomas Snegaroff.